Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up, des gens qui regardent du stand-up. Et en ce moment, il regarde beaucoup de stand-up, il s'appelle Scott Fins.
Yay, yeah, c'est moi Scott Fins. J'ai arrêté de la PlayStation, j'ai désinstallé TikTok. Ça y est, je m'informe maintenant.
Tu as vraiment fait ça?
Oui, j'ai arrêté. Bon, je jouais Resident Evil, j'ai fait le 1, le 2, le 3, et mon frère n'a pas encore prêté le 4, donc j'ai arrêté. Mais je sais que dès que je commence, tu vas au bout du jeu et tu regardes rien d'autre, quoi. Quand tu as un petit moment, tu le passes à jouer ou à faire des conneries. Voilà.
Tu es le deuxième mec ces derniers temps qui m'a dit que tu restreins sa consommation de console.
Ouais, moi, j'ai jamais eu de console, j'ai toujours été pauvre. En plus, celle-là n'est pas la mienne. Et ouais, mais quand tu as un jeu, quand tu arrives le soir, au lieu de regarder quelque chose, c'est assez paisible aussi, parce que quand tu joues, t'es pas dérangé, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, t'es ton jeu, t'es dedans. Et c'est le divertissement sans vide. Finalement, c'est du divertissement vide, mais quand c'est vide, c'est sympa aussi. Voilà.
Ah, j'ai une théorie moi, sur ça, c'est que quand tu vas dans un univers que tu maîtrises, ça te fait du bien.
Ben oui.
Tu sais, tu connais l'alpha et l'oméga de ton univers, Et c'est pour ça que j'ai beaucoup... Tu vois, là, tu as fait Resident Evil 1, 2, 3, parce que tu es quand même dans un univers que tu maîtrises. Tu aurais plus
Ah
de mal
oui.
à basculer sur un autre jeu.
Ah oui, c'est vrai. En plus, oui, parce que le 2, bon, c'est un truc des zombies et tout, et c'est un gros bâtiment à 3 étages ou 4 étages, plus la cave, et plein de portes partout, et tu galères à te souvenir. Mais au bout du jeu, t'es comme chez toi. Et quand tu passes au jeu suivant, et que tu vois qu'ils te font aller dans le même truc du jeu d'avant, t'es là, oh merci les gars, ah ça me touche. Parce que t'es content de retrouver un truc que tu connaissais. C'est débile, mais c'est très drôle.
Est-ce que tu l'as déjà essayé avec le casque VR?
Ah non.
C'est horrible.
Oh, ah oui, horrible, ah, horrible bien ou horrible...
Horrible, c'est quasiment insoutenable. Parce que tu as... En fait, il y a les bruits, il y a la peur, il y a quelque chose.
Ah ouais.
Ouais, c'est... Moi, j'ai pas pu. Hein. C'était trop de stress pour pas grand-chose.
Ah oui, c'est un petit aparté. La première fois où il y a un personnage qui vient, quand tu traînes trop dans un lieu, il te court après et tu entends « toum, 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 toum ». Et tu sais qu'il va te choper. Mais c'est une panique de fou. Et j'ai un pote, il n'a pas réussi à faire le jeu parce qu'il avait trop peur.
Ah ben, c'est des bonnes émotions à avoir. Hein. C'est ça qu'on demande. Et c'est en cette fin d'année, on a eu des bonnes émotions puisque coup sur coup, deux des meilleurs stand-upers au monde ont sorti un special.
Ouais.
Et je ne m'y attendais pas. Tout simplement parce qu'ils avaient déjà sorti des specials assez récemment.
Ouais.
Donc, je parle de Ricky Gervais et Dave Chappelle qui nous ont livré le 25 décembre et le 31 décembre chacun leur special. Et ils étaient déjà là l'année dernière. Ricky Gervais, il a livré Supernature l'année dernière.
Ouais.
Il le dit dans son spectacle, Supernature, ça a été le special le plus vu au monde.
Ouais, c'est vrai.
L'année dernière. Donc, je pense qu'il ne s'amuserait pas à dire ça si ce n'était pas vrai.
Oui, mais Ricky Gervais, c'est des records. Afterlife, c'est special et tout ça. Derek, c'est des trucs... parce que c'est un satiriste, finalement, et qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on doit lui reconnaître il pointe les choses là où ça fait mal, quoi.
Et ouais, je suis étonné, Ricky Gervais, où je vois qu'il est connu, c'est que même des potes qui ne sont pas du stand-up regardent des spectacles de Ricky Gervais.
Ah oui, Ricky Gervais, c'est... disons que quand il a créé The Office en Angleterre, après ça a été repris aux États-Unis, ça a été énorme succès aux États-Unis, et donc tout le monde le connaît. Oui, disons qu'il a plusieurs sources de célébrité quelque part. C'est pas un mec qui fait que du stand-up, il écrit des séries, il a fait plein de séries très drôles avec Steve Merchant qui est un très bon auteur. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est un peu comme Mr. Bean, quand tu penses à Mr. Bean. Et déjà, c'est une grande comparaison. C'est waouh. Si un jour on me compare à Mr. Bean, je serais content. Rowan Atkinson, on le voit. Mr. Bean, Mr. Bean, très drôle, très drôle. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent même pas qu'il sait parler, Mr. Bean. Mais
c'est vrai que même ses stand-up, ils sont quoi. C'est les actes que l'on peut voir à Mr. Bean, c'est souvent des trucs sans parole, en musique ou quoi. Et c'est mortel, mais c'est vrai qu'on a que cette image-là de lui.
Bah oui, mais quand tu vois son stand-up, dans son one-man show, c'est d'une perfection, c'est un truc, c'est le sommet de la technique, de la perfection, de l'intelligence, c'est un truc. Voilà, c'est fou, j'ai pas assez d'adjectifs pour le caractériser. Après, tu as Blackadder, tu as Not the 9 o'clock News, tu as des trucs, mais il a une carrière énorme. Et Mr. Bean, il l'a fait quand il était déjà une superstar de la comédie. Et avec Mr. Bean, il devient une superstar du monde entier. Et donc, Ricky Gervais a une moindre échelle. Il est un peu là-dedans. Donc, on le connaît par plusieurs biais.
Et c'est vrai que Ricky Gervais, il commence. On voit The Office au début des années 2000. Mais après, dès 2003, il va commencer à lancer ses specials. Il va en sortir en 2003, il va en sortir en 2007. Et il en sort en 2010. Vous voyez, c'est le gars, il a toujours, en fait. Nous, on ne connaissait pas sa carrière en tant que stand-upper, mais il avait toujours gardé ça. Il ne s'est pas improvisé stand-upper sur la fin de sa vie. Il est juste stand-upper depuis très longtemps. Et c'est juste que nous, les stand-ups sont arrivés à partir de 2018 avec Humanity, qui était un grand stand-up, à mon sens, de Ricky Gervais. Après 2019-2022, il est occupé par Afterlife. Afterlife, qui est une série qui a été beaucoup, beaucoup vue aussi. Ouais, mes parents, qui ont plus de 75 ans, ont vu Afterlife, se sont régalés. Alors, je ne pensais pas qu'ils iraient sur ça. Et je crois que la force d'un comédien anglais comme ça, c'est peut-être de. Je crois que ça dépasse le cadre des États-Unis. Il y a ce côté Commonwealth où un truc de Ricky Gervais, ça va vraiment être vu dans tout le monde.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il touche à des choses très 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 profondes, à des émotions que nous ressentons tous. Donc Afterlife, c'est la vie d'un mec dans une petite ville, il perd sa femme. Bon, et l'écriture, elle est géniale. Mais c'est des choses simples. C'est comme il y a l'autre série, Derek, c'est par rapport à un gars qui a un handicap. Et c'est vraiment très humain. Il n'y a pas beaucoup d'artifices, c'est très humain, et là-dedans, on met des blagues. Et un peu grâce à lui, il y a Philomena Kunk, je ne sais pas si tu as déjà vu
Non, très bien,
Kunk on
ouais.
Earth, elle est hilarante. Elle jouait dans Afterlife. Et donc, c'est. Voilà, il est très fort, voilà, il est très fort, et très humain, et très connecté à ses sentiments, quoi. Ce n'est pas un mec qui fait des blagues sur les chiens et les avions. Les aéroports.
Et c'est un gars qu'on a vu aussi qui a eu une exposition parce qu'il a présenté les Golden Globe Awards. Et à chaque fois qu'il a présenté les Golden Globe Awards, ses prestations ont été découpées et diffusées sur les réseaux sociaux, mais
Ben
comme
oui, il a tout
jamais.
compris, quoi. Il a tout. Disons qu'il a tout compris. Moi, je pense que Ricky Gervais, c'est un mec normal. C'est ça le truc. Et que les comédiens, les gens du stand-up, même s'ils sont très connus, normalement, ils devraient rester des gens normaux. Voilà, le mec, Ricky Gervais, tu penses pas du tout. Qu'il a pris le melon, quoi. Le mec, il parle, et quand il parle, quand il fait les Golden Globes, et avec le truc de Weinstein et tout ça, et de Epstein, voilà, tous ces scandales, il était là, il est pointé vers des gens d'Hollywood. Et on est en train de voir la même chose en France, avec les tribunes, les contre-tribunes pour Gérard Depardieu, etc. Mais le milieu est assez.
Ouais,
On fait
il
le
a un
genre,
côté
quoi.
dark et lui, on voit qu'il n'est pas.
Voilà, il n'a pas
Il
peur, quoi.
est en dehors de ça et quand il faut rentrer dans l'art, il rentre dans l'art. Et là, Armageddon, c'est son 10e special.
Ah ouais.
C'est son troisième pour Netflix, son 10e special. Donc vraiment, il y en avait deux avant qu'il a fait sur HBO,
Ouais.
Out of England, et les autres, ils sortaient en DVD, puisqu'avant, c'était comme ça que ça se passait. Mais quand
Ouais.
même, 10e special, on peut lui reconnaître. C'est une certaine longévité, certains talents, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a vraiment quelque chose.
C'est sûr. Mais une blague des Golden Globes. Il arrive pour présenter. Oui, nous sommes là tous réunis en vous regardant pour célébrer le travail remarquable qu'ont fait tous ces chirurgiens esthétiques. Et les gens, pouah, gros rire. C'était bien.
Non, mais là, vraiment, c'est si vous avez l'occasion de voir les cérémonies, elles seront dans les. Je vais vous les retrouver, elles seront dans les liens de l'épisode Cérémonie Golden Globe.
Ouais.
Mais c'est tout son talent réuni dans le sens où c'est des one-lines, c'est hyper ciblé, c'est audacieux, c'est même des fois, c'est. On voit qu'il est. Ah, il a dépassé la limite plusieurs fois. En plus, il a souvent un postulat quand il présente ces gars-là, c'est dire hey, je suis pas la bonne personne pour ça, pourquoi vous me payez pour ça? C'est sûrement la dernière fois que je le fais.
C'est
Et
sûr.
effectivement, il. Ouais. Et surtout, on a l'impression qu'il le fait chaque année, Alors que c'est un gars qui le fait plutôt tous les 4 ans, ça.
Ben oui. Oui, après, s'il n'est pas là, on regarde même pas. C'est ça qui est à la fois drôle et bizarre, pas bizarre, mais oui, tout le monde s'en fout. Mais c'est ce qu'il dit, on s'en fout de ces gens riches, pleins de pognon, qui viennent là gagner des prix. On s'en fout. Les gens dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça?
Est-ce qu'on pourrait le faire en... Surtout, il dit, ça va durer 3 heures. Est-ce qu'on pourrait pas le faire en 1 heure? Ça irait, et voilà, et on
Oui,
avance, quoi.
c'est ça. Voilà, par courrier.
Donc, nouveau spectacle, il a débarqué le 25 octobre sur Netflix. Donc, 25 décembre, petit cadeau Noël pour les amateurs. Le spectacle s'appelle Armageddon. Il fait suite à une tournée, la tournée Armageddon, qui a été assez massive.
Ouais, il rigole pas avec ça.
Ouais, lui qui a fait des tournées, c'est assez fat, hein, il se fait plaisir. Et donc, on va être très simple, on va donner d'un premier temps notre impression, et après, ouais, je suis allé chercher un peu des reviews aussi,
Ben oui.
comment le monde a perçu ça, parce que je me suis dit, putain, mais nous, on est un peu unilatéral, dans le sens où moi, j'ai trouvé ça super drôle. J'ai ri à gorge déployée plusieurs fois, ce qui est rare dans un stand-up. Et je poserai mes limites plus tard, mais vraiment, je dois dire, j'ai rigolé, et j'ai vu plusieurs moments, plusieurs segments, je me suis dit, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est drôle la mise en scène, qu'est-ce qu'il est malin.
Ouais, moi aussi. Et des trucs. Et après, bon, il y a quelque chose que j'aimerais pour dire aux gens que si vous voyez les deux spectacles, il y a des similitudes. Et ça, c'est dans le thème. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez drôle.
C'est pour ça qu'on les met un peu, on les review le même jour.
Ouais.
C'est parce qu'il y a des choses qui se répondent et que d'un côté, on les fait plus brillamment que l'autre à certains endroits. On va être clair, Ricky Gervais, il arrive avec une problématique, entre guillemets, qui est le wokisme. C'est sa problématique du moment. Il n'aime pas cet élan de puritanisme. Voilà. Et en particulier, tout ce qui va concerner les personnes trans, et ça, on n'est pas loin de l'obsession. Pour le coup, d'un spectacle, tu vois, c'est un des thèmes principaux de ce spectacle-là.
Ouais. Et là, il y a un truc tout con. Mon frère, qui dit souvent des conneries, là, il m'a dit un truc très juste. Il m'a dit, parce qu'il a des sympathies un peu bon, il est un peu conservateur, mais il m'a dit, je me retrouve à détester. Être en colère avec les gens de trans à cause de l'histoire des pronoms, etc., etc., alors que jamais personne m'a demandé quoi que ce soit d'utiliser des pronoms différents ou des trucs comme ça. Donc, disons que le mec, il habite en France et en regardant les trucs sur Internet, les gens un peu de droite ou quoi montent une sauce tellement. Et avec les bulles de filtre aussi, tu vois un truc, après les réseaux te donnent la même chose que tu as déjà regardé. Et tu montes le bourrichon aux gens sans aucune raison. Et lui, il m'a dit ça. Alors qu'il n'a rien à voir. Mais compter sur Twitter, compter sur des trucs très, très branchés Internet, etc., bah, tu peux, parce qu'il y a des gens très actifs et de l'extrême droite et de l'extrême gauche et toutes ces communautés-là qui font beaucoup de bruit. Et donc, ça fait comme une sorte d'amplification, alors que si tu éteins un Twitter. Voilà, t'es dans ta vie, il n'y a rien, quoi.
Puis des lanternes épingles, des choses qui. Ça arrive rarement dans ta vie, en fait. C'est vrai que ça n'arrive pas dans ta vie. Que quelqu'un le met en rage ou quelqu'un qui te dit, putain, moi je préfère appeler être. Mais même si ça t'arrive dans la vie, je préfère appeler monsieur que madame ou madame que monsieur. On te l'a dit une fois. Tu vas plus, entre guillemets, tu vas plus jamais tromper puisque ça n'arrive pas 100 fois dans ta vie.
Oui, c'est ça. Et en voyant tous ces trucs, toutes ces communications. Tu crois que c'est comme voilà les trans dans les sports féminins. On dirait que à les entendre, que tous les sports, il y a tout le temps des mecs qui veulent machin et qui veulent pas faire transition du tout. Ils veulent juste gagner des médailles, gagner du pognon. Et ils utilisent ça et tout. Alors que la réalité n'a rien à voir avec ça.
C'est 0,0001%. C'est un micro-phénomène.
Ouais. Et...
Andrew Schultz a sorti une blague incroyable sur ça. Je ne sais pas si tu l'as vu récemment.
Non.
Sur le fait que lui, il avait. En fait, qu'il se languissait que ce soit que des trans qui soient dans les sports féminins. Que toutes les femmes soient remplacées par des femmes trans.
C'est drôle ça.
Et que enfin les gens comprendront ce qui est arrivé au blanc dans le basket.
Ah oui, ça, c'est très
Ah, elle
drôle.
est mortelle, cette blague. Elle est très, très drôle.
Ah oui.
Donc voilà, il y a ce truc de, on a un comédien qui est au sommet de son art, mais qui va, à mon sens, sur un sujet qui doit le toucher d'une certaine façon, qui, moi, dans ma vie, ne me touche pas. C'est-à-dire
Oui.
la problématique, trans, tolérance, pas ça, moi, je vois pas à quel moment ça arrive dans ma vie. Et quand ça arrive, c'est plutôt d'une façon agréable. Dans mon cas, c'est que j'ai des comédiennes et comédiennes de la communauté qui ont des sketchs sur ça, qui essaient d'exprimer leur point de vue, qui n'est que le leur, qui est assez qui est minime, parce que la plupart quand même des stand-uppers sont hétéronormés. Et donc je trouve ça toujours intéressant quand on a ce point de vue-là. Donc moi, ça arrive dans ma vie très 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 peu. Et là, j'ai quand même un comédien majeur, Ricky Gervais, qui décide de consacrer une grosse partie de son spectacle à ça.
Ouais. Après, il y a un truc particulier. C'est j'ai une personne avec qui je travaille qui joue à Paris et qui m'a partagé des messages qu'elle a reçus. Elle a fait du stand-up dans un dans une soirée un peu LGBT
Ouais.
et son sketch, bah, elle parle de son mec et de son père. Et quelqu'un lui a envoyé un message comme quoi les stéréotypes qu'elle utilise sont hétéronormés et que machin et que pour la communauté c'est mieux. Ta 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 ta. Et tu te dis mais c'est sa vie, quoi. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de parler de sa vie? Si, voilà. Et donc, je pense que les justiciers sociaux existent.
Ouais,
Des
ils
gens
sont marginaux, c'est très
mais
peu.
qui font beaucoup de bruit et qui sont très motivés. J'ai une copine, elle a des haters, c'est un truc de fou. Parce qu'elle est de gauche, etc. On lui dit, t'es même pas drôle, t'es gauchiste, machin, écervelé, ta ta ta. Mais d'un mec qui a commenté, qui est allé chercher toutes ses vidéos pour l'insulter dans toutes les vidéos, alors que elle lui a rien fait. Et je pense que ça peut créer comme c'est comme Miss France, parce qu'elle est mince et elle a les cheveux courts, et elle s'est mangé un déferlement de haine sur les réseaux. Et je pense que ça doit adultérer un peu la vision qu'on a
Bien
du
sûr.
monde, quoi.
Et je pense que ce qui s'est passé avec Ricky Gervais, c'est parce qu'il a eu un backlash
Bah
dans la
oui,
communauté trans.
et il est
Et
très
à cause de
content.
ça a nourri son nouveau spectacle, ça a nourri ces choses-là.
Et ça.
Et ça a un peu l'effet dieudonné.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un gars qui se fait 40 ans confier avec une communauté. Comme il est en conflit, il nourrit encore plus son spectacle et ses idéaux de ça. Et comme il fait ça en réponse, la réponse est encore plus forte et ça fait un cercle.
Ben oui.
Donc, on s'en sort pas et j'espère sincèrement que Ricky Gervais, il a dit tout ce qu'il avait à dire et qu'il va passer à autre chose parce que autant le spectacle est drôle, il y a vraiment des très bons moments, mais moi sur le sujet, il ne m'a pas eu dans le sens où c'est pas les sujets, c'est pas mes sujets de prédilection. Il m'a même pas fait réfléchir. Tu vois, il a même pas eu cette vertu de me dire ah oui, je vais un peu réfléchir. Non, j'ai compris son point de vue. Je peux même le partager à lui, mais c'est pas, j'ai pas bougé, mes lignes n'ont pas bougé, il m'a pas apporté un élément de réflexion supplémentaire, si ce n'est que je trouve ça salvateur, qu'il y ait toujours des gens qui disent une blague, c'est une blague. Et moi, ça me fait du bien d'entendre quelqu'un qui dit une blague, c'est une blague.
Ben oui, mais ça soulève une problématique beaucoup plus profonde qui est la liberté d'expression. Qu'on n'a pas vraiment liberté d'expression. On croit qu'on l'a, mais c'est pas vraiment. Dieudonné, un exemple, parce que il y a un livre très intéressant, c'est Trigger Warning. Trigger Warning, c'est un livre qui reprend un peu l'évolution de cette expression et de l'état actuel de la liberté d'expression. Que par exemple, le Trigger Warning, c'était à la base utilisé pour les vétérans de combat pour leur dire qu'il y aurait par la suite des bruits forts, etc., qui pourraient déclencher un stress post-traumatique ou des anxiétés liées au combat, etc. Mais maintenant, ça a évolué de telle forme que des fois, tu peux même, comme il dit dans le spectacle, on a peur des mots. Donc, ce post-modernisme un peu dans la classe intellectuelle, un peu universitaire de gauche aux États-Unis, qui a vraiment éclaté et qui commence à est arrivé en Angleterre et arrive en France petit à petit, on se rend compte que dire des choses, dire ce que tu veux, n'est pas forcément autorisé. Et donc c'est le truc, tu ne peux pas dire ça, ou toi, tu ne peux pas dire ça. Tu vois, c'est soit toi, tu n'as pas la légitimité ou le droit de dire des trucs, ou Moi, par exemple, j'ai vu une copine trans faire des blagues les plus trash au monde. Et elle était là, ouais, ce soir, c'est transphobe, homophobe, grossophobe, on y va, ouais. Mais elle peut dire ça. Mais c'est étonnant. Moi, je ne peux pas dire ça. Mais est-ce que je peux rire de ça? C'est la grande question.
Et c'est ouais, il y a des sujets que j'évite parce que c'est pas que je peux en parler, c'est juste que je comprends pas comment ça arrive dans ma vie. En fait, techniquement, je peux parler de n'importe quoi, mais j'ai du mal à me dire, mais quand c'est pourquoi je parlerais ça alors que ça arrive jamais dans ma vie?
Bah oui, mais c'est ça. Mais c'est ça qui, moi, je trouve ça particulièrement chiant. Et je dis ça aux gens quand en cours ou quand je travaille avec des gens. C'est, t'es raciste et homophobe? Oui, je fais des blagues racistes et homophobes. Si t'es pas raciste et homophobe et que ça t'arrive pas dans ta vie, pourquoi tu en parlerais? Quel est ton délire d'aller parler de quelque chose qui ne te regarde pas, ne te concerne pas, et sur lequel t'as un avis de merde en plus? Parce que tu, voilà. Il y a beaucoup qui font ça, mais je pense que c'est parce qu'on croit comprendre ce que le public veut pour rigoler. Et si c'est des blagues trans, ben on va faire des blagues sur les trans parce que c'est à la mode et on peut gratter quelques rires avec ça. Mais qu'est-ce qu'on connaît de toi en tant qu'artiste à la fin de cette blague? Juste que tu as choisi de faire cette blague. On n'apprend rien de ta
Ouais.
vision du monde.
Ouais, j'ai une fois qui cartonne sur TikTok et son filon, c'est les trans, les non-binaires, les trans, les non-binaires. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort une vidéo, genre je m'identifie comme un lapin, et ben il va faire une vidéo sur ça, mais non, mais tu peux pas t'identifier comme un lapin, ta 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 ta, et il cartonne. Et il gagne plein d'argent. Parce que TikTok, ça rémunère fort bien quand tu fais les bons trucs. Mais on est vraiment dans un truc de. Tu le fais parce que ça a rapport à. Tu vois, tu as trouvé ce qui marchait, tu as trouvé ce qui marchait pour toi, mais le fond est pas. Et te rend pas honneur, en fait. Ça
C'est
t'honore
ça.
pas parce que je sais que tu n'es pas connecté à ça, que tu es meilleur humoriste que les blagues que tu fais. Et que peut-être en faisant ça, tu vas gagner de l'argent aujourd'hui, mais tu vas perdre l'argent que tu aurais eu demain si tu avais été vraiment l'humoriste que tu étais censé être.
Oui, mais c'est ça, c'est ça. Moi, personnellement, dans mon expression de l'art du stand-up, je veux aller dans l'infiniment petit, dans moi, vraiment dans mon truc à moi, et que la vie à côté, elle continue et des choses se passent, et je veux faire de la comédie sur l'infiniment petit et insignifiant, et par là me connecter avec les gens, alors que. Plus, mais c'est ça le truc, plus tu lis, plus tu t'informes, plus tu as envie de fermer ta gueule parce que tu sais que les choses ne sont pas binaires, justement. Tu sais que Neil, s'il y a un qui a raison ou l'autre qui a raison, tu entends quand il y a Ricky Gervais qui fait la blague de Caitlyn Jenner qui gagne le prix de femme de l'année et la meuf, c'est une femme depuis 6 mois. C'est hilarant, c'est hilarant. Alors, moi, je trouve ça très drôle. Et je comprends que on puisse dire bah c'est n'importe quoi, mais comme je comprends qu'on puisse dire non, c'est très bien. Et qu'est-ce que j'aurais à dire à ça? Rien. Et c'est ça.
Et Ricky Gervais, donc il a 61 ans, et là il est sur Disney Special, et étonnamment, là je lis un peu les reviews, les critiques qui ont été faites, et elles sont particulièrement mauvaises. Mais vraiment, alors que moi j'ai encaissé le spectacle en me disant, je trouve ça pas mal.
Alors, attends, on va faire un jeu. On va faire un jeu. Parce que quand on a ça, on cherche une victime. Bon, quand on a un tabou, il y a un tabou, quelque chose qu'on n'aime pas, même si on ne sait pas pourquoi ça nous choque, on va essayer de trouver une victime ou. Ouais, c'est surtout une victime. Et est-ce qu'on va voir si ses avis se portent sur la forme, sur le contenu? Ou sur quoi, ce serait cool de décortiquer chaque
Non,
avis.
mais en fait, on va prendre Variety. Variety, quand ils veulent. En fait, c'est aussi facile quand tu veux démonter un spectacle de tu vois, tirer les gros traits, de résumer le spectacle à quelques bits ou passages. Et. Donc, ils disent bon, ben, les sujets un peu à la limite qui vont vous choquer et ravir l'audience, ça va être une université qui enseigne Taylor Swift. Une
Ouais.
punchline sur le film Armageddon de 98. Des blagues sur le fait que Michael Jackson soit pédophile. une blague sur le fait que les Chinois mangent des chiens, et une blague sur Peter Dinklage et les nains.
Ouais.
Et en fait, tu te dis, ah, j'ai compris l'article, vous le faire passer pour ringard, en fait, vous voulez dire. Vous mettez tout ça pour dire, ah, Ricky Gervais, ringard, il est hors du temps, il est, tu vois, il a déjà orienté l'article pour te faire croire
Mais
que le
oui.
gars était complètement admin.
Voilà, donc les victimes, oui, c'est ça. Oui, on dirait qu'ils se moquent de. Et même Michael Jackson, c'est. Bah, c'est bien connu.
Mais
C'est
non, mais c'est un
peut-être
peu bizarre.
pas.
Je trouvais ça bizarre, le truc sur Michael Jackson.
Mais
Pour
après.
le coup, je trouvais ça ringard.
Bah oui, mais du coup, il y a un truc, il ringarde, oui, parce que Michael Jackson, c'est très vu comme sujet et très fait. Donc, le moonwalk, on dirait qu'il arrive, qu'il part, etc. Eddie Murphy l'a fait en 80. Bon, il y a plein de trucs qui sont, comment dire, qui sont vus, mais qui illustrent quand même le point de vue. Et le point de vue étant, on a l'exemple en France de Gérard Depardieu. Ah, machin, tout le monde savait, tout le monde savait. Oui, mais tout le monde savait, pourquoi personne n'a rien dit? Ah, parce que c'est Gérard. Tu vois, ah, c'est bon, c'est Gérard, etc. Aux États-Unis, Michael Jackson, il y a encore des gens qui sont là, il est innocent. Tu vois,
J'entends, mais de la part de Ricky Gervais, c'est vrai que ça fait un peu feignant, ringard de se dire que l'exemple de pédophilie, tu vois, c'est Michael Jackson. Moi, dans le spectacle, pour le coup, j'ai trouvé ça assez feignant. Je me suis dit, bon, ouais, c'est pas le truc qui m'éclate le plus, mais encore une fois, j'ai trouvé le spectacle très cool à voir. J'ai vraiment rigolé plusieurs fois. Mais là, je vois que l'article de Variety, il est vraiment orienté dans, ah là là, on peut pas comparer ça quand même à la qualité d'Anthony Yeselnik. C'est plus. Ils veulent vraiment faire passer Ricky Gervais dans le côté ringard. Et je trouve que c'est une façon aussi de cancel le gars. C'est-à-dire, tu vois, de l'attaquer sur ça. Mais c'est pas, tu veux, c'est pas la seule review où on dit Ricky Gervais, il y en a le Guardian qui dit il est macho, il est daté, il est vraiment plus dans le coup.
Ouais, c'est drôle ça.
Et ils disaient, ils l'ont vu avant que ce soit enregistré pour Netflix.
D'accord. Après, il y a un truc très intéressant. C'est que. Et là, j'ai cherché quelques blagues. Je ne sais pas si c'est sur Ricky Gervais ou sur Chappelle. J'ai cherché un peu les références de certaines blagues. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu fais des avis, quand tu fais des trucs, le but du Guardian ou le Vanity, etc., c'est que les gens les lisent.
Tout à fait.
Et ça c'est un peu dégueu dans le sens où c'est une lutte pour exister. Et donc, quand tu aimes un truc, tu vas chercher des avis qui sont d'accord avec toi. Et donc, ces avis-là, il faut qu'ils soient en haut de Google. Et tout ça, c'est une lutte permanente pour attirer l'attention des lecteurs. Et on va pas, par exemple, James Corden. J'ai cherché le truc James Corden quand il demande à la fin. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui écrit un article. Est-ce qu'ils s'embrouillent? Est-ce qu'ils s'envoient des pics à chaque fois entre
Alors, la blague, c'est
Gervais,
que
etc.?
James Corden, qui est à la base un comédien anglais, animateur anglais, qui a connu un gros succès aux États-Unis en comme présentateur de talk show, il présentait aussi le segment Comédien Tiscar, quand il chante la karaoké,
Ouais,
karaoké,
carpool
karaoké. Et James Corden, c'est vrai que quand il apparaît dans des films, un des films plus récents qu'il est apparu, c'est Cats. Mais il
karaoké.
apparaît
C'était
dans des
pourri.
très, très, très mauvais films.
Fat pussy.
Donc là, forcément, Ricky Gervais lui met un petit tacle. Alors, est-ce que tu sais d'où ça vient ce tacle? Est-ce que c'est motivé, pas motivé?
Non, j'ai pas. Quand j'ai commencé à lire, il y avait plein de pubs dans le truc. Bon, j'ai pas lu la fin, mais bon, Kat, je connaissais un peu le buzz de Kat. Je sais que lui, il a été viré ou son talk show c'est fini, etc. Il le fait plus. Donc, je sais qu'il y a une embrouille quelconque, mais je sais pas laquelle. Mais ça me fait penser aussi à Jussie Smollett dans le spectacle de Chappelle, dont on parlera après.
Alors, pour te dire les reviews qu'on disait, il faut que ce soit accrocheur. Le Télégraphe, quand ils titrent sur Ricky Gervais, ils disent Armageddon de Ricky Gervais est un cocktail fastidieux de besoin et de mauvais goût. De besoin, dans le sens de besoin d'attention. Hein. Et Variety, ils ont titré le nouveau spécial Netflix de Ricky Gervais Armageddon. Et c'est si fort d'être offensant et à la limite que c'est. Mais ce n'est qu'un ennui total. C'est un ennui total. Tu vois, ils essaient vraiment de dire, il a voulu faire ça, mais ça tombe à côté. C'est vraiment ça leur axe de. Alors moi, vraiment, je voulais dire de mon côté, j'ai trouvé que c'était un bon special. C'est pas son meilleur parce qu'il a livré, je pense, ses meilleurs avant. J'ai pas cette impression parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes. Il y en a qui m'ont dit, ah ça y est, il est fini. Moi, j'ai pas du tout cette impression qu'il est fini. Tu vois, il y en a qui pensent qu'il a atteint un pic et que là, il va chuter. Moi, je me dis non, non, là, il est sur un plateau, il est fort, il est encore très fort et il a livré
Oui.
trop bien pour un mec de 61 ans. Il est au sommet de son art et on a de la chance d'avoir ce gars-là qui livre encore des specials.
Mais oui.
Parce qu'il est richissime, il pourrait s'arrêter, mais il a encore cette volonté de faire rire les gens en live. Et on est obligé, forcément, de l'autre côté, bah, d'aller sur Dave Chappelle, qui lui, il vient de livrer un special qu'on n'attendait pas forcément.
Ouais.
Parce que dans The Closer, il avait dit bah, c'est fini pour moi, plus de special et on arrête là. Et là, il arrive avec celui-ci, The Dreamer, le rêveur. Dave Chappelle, il a 10 ans de moins que Ricky Gervais. Il a 50 piges. Il a, pour un peu résumer sa vie, il connaît un début de carrière assez explosif, en particulier avec un truc qui s'appelle le Chappelle Show, qui est un sketch show.
Ouais.
Il est disponible sur Netflix.
C'est une tuerie.
Écoute, moi, je l'ai découvert sur le tard, quand ça a été diffusé les ces dernières années sur Netflix. Je trouve ça très, très drôle.
Ouais.
Et je. Comment dire? Je vous invite à le revoir. Il y en a qui ont du mal à. Il y en a qui m'ont dit c'est ringard et tout, alors que moi, j'ai trouvé ça toujours super profond.
Bah oui, bah oui, bah oui. Oui, ouais, après, c'est toujours. Il faut toujours voir l'art dans son contexte quelque part. C'est, je sais pas, c'est comme si tu regardes un truc qui a été écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu vas dire ah la vie n'est pas si triste. Ben c'est pas si triste maintenant dans l'endroit et dans le temps où tu es. Mais quand tu penses aux États-Unis, au ce qu'ils vivent par exemple, Chappelle, c'est intéressant ce qu'il vit en tant qu'homme noir aux États-Unis et son regard par rapport à la communauté trans et à la communauté gay est intéressant parce que c'est un homme noir des États-Unis. Et tout ce que ça implique avec son histoire et l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc on ne peut pas ignorer son point de vue de départ. Et un truc que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport même à ces deux specials, c'est quelque part jouissif de voir quelqu'un qui transgresse impunément. Alors que souvent, tout le monde veut tempérer son propos et quand quelqu'un va dans l'art et va dans le choc, tu rigoles, tu dis putain, ah, finalement, quelqu'un qui rit de ça et je peux rire de ça.
Et ça devient un peu méta même. Hein. Je trouve qu'il y a
Ben
un
oui, c'est ça.
côté. On va en parler pour Chappelle. Il y a un côté très méta chez Chappelle, où le début de son spectacle, c'est un storytelling à propos de Jim Carrey.
Ouais.
Et il fait ce storytelling qui est assez long. Et ce storytelling se conclut sur une blague sur le sujet sur les trans.
Ouais.
Alors qu'il avait masqué tout ça pour finir sur une punchline débile sur les trans. Et il annonce direct, hey! Vous croyez que quoi? En gros, j'ai pas lâché le sujet, j'ai pas lâché
Bah
l'affaire. Mais vous savez quoi? En plus, direct, il prend le contre-pied et dit, j'ai donné avec cette communauté, j'ai donné. Maintenant, on arrête. Maintenant, je m'attaque aux handicapés.
oui. Ouais. Ouais. Mais c'est justement ça, c'est d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les deux films dont il parle, donc le truc de The Other Side of the Moon ou un truc comme ça de Andy Kaufman,
Attends,
et le
attends, tu vas trop
documentaire,
vite, tu vas trop vite.
voyez-le, mais bon. Revenons
Non, non, tu vas, tu, on va
Jimmy.
poser. Effectivement, dans ses premières 5 minutes, il parle d'un film avec Jim Carrey, où Jim Carrey incarne Andy Kaufman dans Man on the Moon de Milos Forman. Et pour jouer ce rôle-là, Jim Carrey s'est complètement plongé dans le rôle. Il a utilisé la méthode, c'est-à-dire qu'il ne sortait plus du personnage. Donc, effectivement, si vous n'avez pas vu le film, il est disponible sur Netflix. C'est un grand film. Et c'est un grand film sur l'obsession. C'est un grand film même sur le stand-up. Sur ce que c'est aller à fond dans un truc et brouiller les frontières entre le réel, la fiction, le drôle, le pas drôle. Parce qu'Andy Kaufman, il a poussé toutes ses blagues à un extrême. Et jusqu'à lui-même être un peu la victime de sa propre blague, de.
Bah oui.
Là, il est vraiment, c'est un grand film. C'est un très grand film.
C'est très très bien. Et 20 ans après, ils ont sorti le making-of de ce film, qui est encore plus perché.
Qui est aussi sur Netflix, hein. Ça s'appelle Angie et Jim.
Ah oui, et c'est un truc, tu dis waouh! Waouh! Quand il y a des acteurs, gnignignin, et tu. Waouh, c'est vraiment un truc de fou. Mais par exemple, quand tu es en France, tu dis, ah, genre, Le Pen, qui vote pour Le Pen? Si tu vas par applaudissement, imagine, tu es dans une soirée stand-up, ouais, qui vote pour Le Pen? T'as pas une personne qui lève la main. Mais quand tu vas aux élections présidentielles, il y a beaucoup de gens qui votent, mais comme c'est un peu, il y a un regard un peu, comment dire, ouais, si tu votes pour le Front National, c'est que t'es un raciste, c'est que t'es un machin, etc. Tu vois, pareil aux États-Unis, comment un mec comme Donald Trump peut être encore devant dans les sondages pour les républicains? Et tu te dis que finalement, il y a tout un discours politiquement correct, des gens qui disent ce qu'il faut dire avec des éléments de langage, etc. Et quand quelqu'un arrive et balance des trucs qui peuvent être très débiles, mais qui résonnent avec ce que pensent beaucoup de gens, bah, les chiffres sont là. Tu vois, c'est Ricky Gervais, il disait, ouais, un grand tollé, un grand truc, backlash, etc. Et c'est ça qui a rendu mon dernier spectacle le plus vu au monde. Merci beaucoup, les gars. Et donc, c'est, on sait jamais.
Ah donc, ce qui est drôle avec Chappelle, c'est que lui aussi, avec The Dreamer, il livre son dixième special. Alors, il a un, vous pourrez trouver plus de choses de Chappelle, mais il a trois vidéos, trois longues vidéos qui s'appellent 8:46, qui est une somme, vous pouvez les trouver sur YouTube. Unforgiven et Redemption Song, en fait, ce sont ce qu'ils appellent les performance speech. C'est pas totalement des stand-up. Ça, c'est plus des prêches que des stand-up. Mais dans les 10 stand-up, voilà, là, The Dreamer, c'est son 10e stand-up officiel, pardon. Ah non, c'est son 9e, tiens. C'est son 9e parce qu'on comptait. Non, son 9e parce qu'il y en a un qui n'est pas un stand-up. C'est What is the Name? C'est un discours où il accepte le prix Mark Twain.
D'accord.
Donc, son 9e special, il y a une particularité vraiment très forte dans la carrière de Dave Chappelle, c'est qu'il sort un special en 2000 sur HBO, Kill Him Softly, que vous pouvez trouver, si se trouve. Après, il sort en 2004 sur Showtime For What It's For.
Ouais.
Et pendant 13 ans, allez, fini, on ne le voit plus, plus de Chappelle. Il revient en 2017 et là, il fait une première série, 4 specials en 2017.
Moi, pour la peine. C'est un génie, ce mec, après.
Génie. Il sort un special en 2019. Il sort un special en 2021. Et là, il revient avec The Dreamer. Et moi, j'ai vraiment, je te rejoins sur le côté c'est un génie. On le qualifie souvent de GOAT, c'est-à-dire le meilleur de tous les temps. Lui, il sent. Selon qui c'est qui lui dit, il va faire non, non, c'est pas ça. Mais clairement, il se positionne comme ça en vrai.
Ben oui, mais il vit sa vie comme ça. Il y a des trucs, genre Kevin Hart qui disait qu'ils étaient tous les deux dans la même ville. Et Chappelle dit, alors tu joues? Oui, et tu joues à quelle heure? Kevin qui dit, oui, je joue à 20h. Ah merde, j'ai un show en même temps. Mais c'est pas grave, je peux le repousser. Le mec, il arrive, il fait ce qu'il veut. Et Ricky Gervais aussi, ils font ce qu'ils veulent. Et ils arrivent à un point, et c'est parce qu'ils font ce qu'ils veulent qu'on les met là-haut, et ils sont là-haut parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça, c'est
Ça
sans
se nourrit
demander
bien.
pardon, quoi.
Ça se nourrit bien. Et c'est vrai que chez Chappelle, c'est vraiment intéressant qu'il ait cette capacité à pouvoir s'exprimer et à pouvoir aller dans toutes les directions. Alors, le spectacle, pour vraiment être très clair, moi, j'ai trouvé. Alors, on ne devrait pas le faire, mais je vais les comparer quand même au niveau plaisir que j'ai eu à les voir. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à voir Dave Chappelle, mais j'ai moins rigolé avec Dave Chappelle.
Ouais.
C'est bizarre, hein? J'ai des rires francs. Dans Ricky Gervais, j'ai eu des rires francs. Et Dave Chappelle, j'ai eu moins de rires francs, mais j'avais vraiment un truc jouissif à le voir. Ça m'éclatait ce qu'il faisait, ce qu'il racontait. J'étais passionné par ce qu'il racontait. Et il y a quelque chose qui est aussi que je. Où Dave Chappelle, le spectacle, là, ma seule déception sur le spectacle, c'est qu'il est très court. Il fait une cinquantaine de minutes, alors qu'on sait que Chappelle fait des shows de 2 heures.
Ben oui, ben oui, ben oui, ben
Et je crois qu'ils ont gardé, ils ont tellement édité le truc, ils ont enlevé beaucoup de choses. Et ça me et c'est un choix éditorial, hein, mais ça m'embête tellement de ne pas voir tout le reste. J'aurais préféré voir 2 heures un peu plus avec un peu plus de gras que là, ces 50 minutes qui sont vraiment musclées.
Ouais.
Mais il y a un côté, on le voit parce qu'à la fin, en fait,
La cigarette à la fin.
voilà, la cigarette. En fait, à un moment, il fait une blague. Il dit, bon, voilà, ça, c'était ma dernière blague, ça s'arrête là. Maintenant, je vais vous raconter une dernière histoire. Considérez le spectacle est fini. Maintenant, c'est un bonus. Il va prendre une cigarette, il fait son truc, mais je. Connaissant Chapelle et ses shows, ça arrive au bout de 2 heures de spectacle qui se permet de faire ça. C'est quand il a vraiment tout donné, qui peut se permettre de raconter une dernière histoire, alors que nous, on a directement accès à la dernière histoire sans avoir eu tout le parcours avant.
Ouais. Et mais Chappelle, ce qui est drôle, parce qu'il y a beaucoup de choses sont drôles, mais c'est ce truc irrévérencieux. Il y a une histoire que il va demander à jouer dans un comedy club quelconque, qui s'entraîne, je sais pas quoi. Et le mec du comedy club lui dit, écoute, Dave, vas-y, fais un 10 serré, s'il te plaît, parce que voilà, parce qu'il y a l'autre mec qui joue après et tout. Voilà, je te laisse passer, mais fais un 10 serré. Il dit, ok, pas de problème. Il arrive. Je pense qu'il fait, je me souviens plus combien de temps il fait, s'il fait vraiment les 10 ou s'il fait 20 minutes. Et à la fin, il dit, bon, bah, les gars, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez, je vais traîner dehors, fumer des clopes, si vous voulez prendre des photos, etc., c'est avec plaisir. La salle vide, tout le monde est parti avec lui. Quel bâtard, mais c'était drôle. Voilà.
Ah, mais et en plus, il se positionne vraiment comme un mâle alpha. Il y a vraiment ce côté, le côté macho, autant je ne l'ai pas ressenti chez Ricky Gervais. Et on peut le ressentir chez Chappelle, mais parce que c'est comme ça qu'il a décidé de vivre sa vie. Et il a ce côté. Et pareil, ce qui est drôle, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec deux spectacles à plus d'un titre, dans le sens où ils n'hésitent pas à faire des blagues débiles. Ils s'en foutent pour rire. En particulier sur les Chinois, il y en a chez Ricky Gervais, ça va manger un chien. Et chez Chappelle, tu refais le Chinois juste en plissant les yeux.
Ah oui, et que sa femme après se imite le mec noir en aplatissant le nez pour débloquer son téléphone.
Voilà, il fait le contrepoint, mais le premier point, quand même, ça reste le fait que ben, Chinois, Tchaka, il va sur les stéréotypes les plus basiques. Et nous, on ferait ça, on se dirait, ah, oh, c'est cheap et tout. Mais quand c'est Chappelle qui il le fait d'une telle façon qu'on se dit, ah, on comprend le second degré, voire le troisième degré, se dire, oui, c'est l'idée.
Sa femme, il sait pas, elle est asiatique, il sait pas si elle dort.
Alors, cette blague-là, elle est
Drôle.
débile, hein. Cette
Ah mais
blague-là,
c'est
elle est
trop drôle.
raciste au possible. Mais chez Chappelle, on se dit, non, mais on sait que le mec, il a ce truc de, ça va, on sait qu'il est pas, on sait qu'il est intelligent, il est marié avec elle, on sait qu'il peut faire cette blague. Il y a vraiment toute une série d'autorisations qui s'est créée lui-même.
Ouais.
Et qui marche, moi, tacitement, chez moi, ça marche.
Mais oui. Mais après, par exemple, dans le cas de Gervais, quand il fait la... Et ça, c'est une vraie question. Bon, on dit les Chinois bouffent des chiens. C'est raciste. Ok. Par contre, il y a un festival, il y a des festivals de bouffe de chiens en Chine,
Ouais.
où ils mangent des chiens. Donc, il y a le festival du chien où tout le monde mange des chiens. Et alors, est-ce que, mais c'est donc étant vrai, pas tous les Chinois ne mangent pas de chiens, mais une certaine partie de la population chinoise mange des chiens, qui pour eux c'est tout à fait acceptable. Comme les Portugais, on mange des pigeons, et les Anglais ils trouvent ça dégueulasse. Comme on mange des escargots au Portugal, on mange des escargots de jardin, et c'est un truc, c'est super bon. Mais d'autres cultures trouvent ça dégueulasse. Donc, où est-ce que se trouve le racisme si tu es en train de dire un truc vrai? Et lui, par exemple, Gervais, il est très à cheval sur la défense des animaux, etc. Il a récolté plus de 2 millions de dollars avec les tickets des gens qui veulent être au premier rang ou quoi, ils payent beaucoup plus cher. Et ça va pour la défense des animaux. Donc, voilà, où est-ce que c'est être vrai et raciste? Comment on fait la distinction?
Ah ben là, la distinction est simple. Dans le cas des Chinois qui mangent des chiens, déjà, que n'importe quel Asiatique, on l'appelle Chinois, il y a vraiment un problème. Donc ça, c'est ce que vivent les Asiatiques au quotidien en France, hein.
Ben oui.
Tu es Vietnamien, tu es Cambodgien et tout, tu es le Chinois ad vitam aeternam. Et je te parle de ça, ça fait ouais, plus de 30 ans que je fréquente des Asiatiques qui me racontent le même truc chez le Chinois. C'est-à-dire que toute ta culture est effacée. Et on te dit, tu as toujours un stéréotype, vous mangez des chiens. Et je ne vois pas en quel moment, même s'il y a une infime partie de la Chine qui consomme ça, je ne vois pas en quoi ça peut te résumer, toi, qui ne te sens pas connecté à ça. Et c'est là que c'est raciste. C'est quand on rappelle un stéréotype raciste, il y a vraiment quelque chose qui leur pèse et qui n'est pas bon de propager, qui n'est pas bon de répéter ad vitam aeternam, que chaque resto chinois n'a pas d'hygiène et que sûrement tu as mangé du chat et du chien dans chaque resto chinois, alors que les restaurateurs, les mecs se cassent le cul pour te faire des super plats.
Ouais.
Il y a vraiment ce côté-là qui est problématique, et c'est là que c'est raciste de propager ce stéréotype en permanence.
Ouais. Mais
Et
après, si ça a quelque chose à dire par rapport à ça.
Mais moi, pour moi, c'est méta. Quand Ricky Gervais, il utilise cette blague-là, ce stéréotype, il l'utilise en sachant que c'est un stéréotype et en jouant sur le fait que la réaction est oui, c'est drôle, mais c'est un stéréotype. Tu vois, il y a un côté où c'est assumé. Pareil, Dave Chappelle, il utilise un gros stéréotype pour parler de sa femme, qui est drôle. Puis après, il utilise un gros stéréotype pour parler lui-même, qui est aussi drôle. Et il n'oublie pas le fait, tu vois, il le met de telle façon dans son spectacle à dire, et je suis conscient que c'est débile, je suis conscient que ce sont des stéréotypes, mais jouons-en. C'est pas vrai, mais venez, on en joue.
Ouais. Oui, c'est. Bon, en tout cas, c'est intéressant de. Et en tout cas, moi, je le vois sans malice, sans intention de dénigrer
Tout à fait.
ou de trucs. Après, voilà, c'est drôle si on se choque. C'est ça qui est drôle dans la blague de Ricky Gervais. J'ai beaucoup plus ri avec les blagues sur les Chinois de Chappelle que de Gervais. Mais si on se choque, ils viennent faire le sketch et on se choque de la blague. Qui fait de l'enfant chinois qui veut pas manger le chien, à la fin de ce qu'il vient de faire, c'est qu'on a un problème, quoi. Tu vois, parce que juste avant, il fait le truc dans les toilettes, etc., pour avoir un chiot, etc. Et c'est ça, c'est un peu. Et ça rejoint ce que dit Chris Rock, Selective Outrage. On
Ouais.
se. On se. Ouais. On
On
se.
s'offusque pour des choses sélectives sur le fait de
C'est ça,
s'offusquer.
c'est ça, c'est ça.
Mais les deux spectacles, vraiment, alors, hasard du calendrier, le fait qu'ils sortent à une semaine d'intervalle, ça me pousse à les comparer, mais je pense qu'ils sont très comparables. Hein. Ils sont comparables sur les sujets, sur plusieurs aspects. Il y a aussi une mécanique dans les deux qui est intéressante, une mécanique comique. Ils disent. Les deux disent, et ma femme veut pas, n'aime pas cette blague, ou ma femme ne veut pas que je fasse cette blague.
Oui, ça les
Et ça
ramène
dit.
au niveau du public, quoi.
Et voilà, et c'est à chaque fois, ils se servent de leur femme pour dire, écoutez, il y a vraiment, j'ai de l'opposition dans mon camp, mais je ne peux pas ne pas la faire parce qu'une blague, c'est une blague.
C'est
Et je
ça.
trouve qu'à chaque fois, il y a un propos, ils ont trouvé la même mécanique. Donc les deux se répondent étrangement. Et chez les. Et pareil, tout ce qui va être journaux et tout, ont compris que les deux se répondaient. En tout cas, tout le monde a fait cette comparaison en disant, il est sorti Ricky Gervais une semaine, Dave Chappelle sort, et ils essaient de faire ressortir les mêmes faiblesses, en particulier le fait que ce soit transphobe pour eux, que ce soit anti-woke. Écoute,
Après, par exemple, Chappelle, il a le Juicy Smollier. Ça fait des blagues dessus.
Je vais juste m'oublier pour vous dire, c'est un acteur. À chaque fois, il faut qu'on rappelle tout Scott parce que les
Ouais,
gens.
c'est ce que j'allais.
Ouais, ne surestime pas le fait, tout le monde n'a pas vu tout ce qu'on regarde parce que nous, on est vraiment des obsédés de ces affaires-là. Et Justice Mollier, c'est un acteur qui s'était fait passer victime d'une agression
Raciste et homophobe.
raciste et homophobe, et il s'est avéré que c'était une fraude totale.
Eh oui.
Et Chappelle a consacré une grosse partie d'un précédent spectacle à se moquer de lui, mais à se moquer de lui en toute chose, c'est-à-dire sur son nom, sur son attitude, sur
Ouais.
ce qu'il était, sur. Et voilà, il a terminé le gars.
Eh oui. Et il a été condamné à 5 mois de prison pour cette mise en scène, quand même. Smollier, c'est pas Chappelle. Mais c'est ça. Et là, voilà, j'ai trouvé pourquoi j'étais allé chercher les infos des blagues. C'est qu'il fait une blague. Attends, à la fin, c'est un qui veut être pompier. Donc, la maîtresse qui demande aux enfants ce qu'ils veulent faire quand ils sont plus grands. Un qui veut être pompier. L'autre qui veut faire je sais pas quoi. Mais c'est le pompier qui m'a marqué, Timmy. En plus, il y a un Timmy dans chaque spectacle. Ça, c'est drôle.
Timmy dans chaque spectacle, il y a la
Ça, c'est
même.
drôle.
Alors, je me suis interrogé ça aussi. Je me suis dit pourquoi c'est Timmy dans chaque spectacle?
Ouais.
Et en fait, je crois que c'est juste une question d'assonance, tu sais, de Timmy. Ça, ça,
Ah oui, ça
ça.
sonne bien. Ah
C'est comme nous, quand tu verras que les blagues en France, il y a souvent des Timothées. Parce que ça marche bien dans le fait de le dire, ça reste bien dans l'oreille. Mais c'est vrai que, bizarrement, ils ont le même prénom sur une blague d'enfant,
Et
alors
ça,
qu'il y a
c'est
un million de
drôle.
prénoms.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, nous, oui, c'est très drôle. Et en plus, j'étais voir si c'est vrai, parce qu'il avait fait une blague, justement, d'un jeune à qui une femme blanche avait dit qu'il l'avait violé, et il a été lynché, il a été tué, etc. Et la femme a avoué sur son lit de mort que c'était faux. Et que ce Timmy a mis le feu à un truc, a tué je ne sais pas combien de personnes, et parce qu'il était noir, il a été jugé comme un adulte. Ouais. Et moi, j'ai voulu voir si cette histoire était vraie.
Bien sûr qu'elle est vraie.
Et bien sûr que tu as le droit d'être en colère et de dire des trucs. Pareil, au truc des trans dans l'autre, dans le spectacle précédent, c'est pas un truc contre les trans en soi, mais quand il dit que si tu tues un noir dans un supermarché, comme il y a un mec qui a tué un noir, qui a buté, il a rien eu à sa carrière, et quand il a fait une blague homophobe, on la cancelle. Et là, bien sûr que tu as le droit d'être en colère avec cette information-là. Après, qu'est-ce que tu fais, c'est autre chose, mais waouh, ça va en profondeur. Pareil, quand j'ai un pote qui a un nom de famille maghrébin, ouais. Il sait que pour les entretiens d'embauche, etc., c'est galère. Donc, c'est son prénom. Il enlève son prénom quand il postule. Et comment ne pas être en colère avec des trucs comme ça autour de toi?
Le problème, c'est souvent quand tu te sers de ça pour attaquer, tu vois, le fait de dire nous, en tant que communauté noire, il y a ce souci-là qui est endémique.
Ouais.
Mais les trans, et des fois, tu arrives à dire mais quoi, mais les trans, quoi, quel est le rapport avec ce que toi tu subis? Et il a plutôt bien fait passer dans un spectacle précédent, mais en gros, on a le même ennemi. On a le même ennemi, c'est. Mais quand même, je ne veux pas t'empêcher de te dire. Ouais, c'est ce qui s'est passé aussi avec Dieudonné. Ouais, mais les Noirs, on a subi l'esclavage, gouré, choses comme ça. Et les Juifs. Et tu te dis, mais pourquoi tu parles d'autre chose en fait? Tu peux parler de toi sans parler d'autre chose et sans attaquer complètement d'autres identités, d'autres peuples.
C'est ça, c'est l'outrage sélectif. C'est ça qui est. C'est parce que c'est de tous les côtés. C'est de tous les côtés.
Oui, mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément une super mécanique de se dire, ouais, mais nous, on a subi une oppression, on peut se moquer des autres oppressions. Cette mécanique-là ne me plaît pas tellement. Mais heureusement, dans le spectacle de Chappelle, je trouve que ce n'est pas le cœur du spectacle.
Non.
Je trouve vraiment que ce n'est pas le cœur. Il raconte des choses assez profondes. Il y a une punchline, deux qui m'ont fait plaisir, mais au-delà de la blague, c'est-à-dire qu'elles m'ont fait plaisir en tant qu'idée.
Ouais.
Alors, une idée géniale, c'est le fait, n'écoutez pas les prochaines paroles si vous ne voulez pas être spoilé, même si on a quand même déjà bien débattu
des
blagues. C'est Dave Chappelle qui dit, en gros, si je meurs, j'ai un coffre spécial. Et il dit à sa femme, tu ouvres ce coffre et tu auras tout ce qu'il faut. Tu seras à l'abri, les enfants et toi. Elle ouvre le coffre et il n'y a que son carnet de blagues dedans. Elle dit, elle est déçue. Elle dit, mais il n'y a que ton carnet de blagues. Il fait, écoute, si tu dis les blagues comme je les ai écrites.
Exactement comme elles sont écrites, ouais.
Les enfants et toi, vous êtes à l'abri pour le reste de vos jours. Et après, il te dit, pour moi, c'est ça, être mal alpha, entre guillemets, dans ce truc-là. C'est là où il s'impose en tant que goth. C'est quand il dit mes blagues, elles peuvent te rendre riche, elles te rendront riche parce que je sais ce que valent mes blagues.
Ouais,
ça, cette
ouais.
Histoire m'a régalé et sa dernière histoire, elle est intéressante parce qu'elle donne le titre du spectacle. Le spectacle s'appelle The Dreamer, le rêveur. Et en fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il dit que quand il est arrivé il y a 20 ans, en fait, il a enregistré son deuxième spectacle dans la même salle où là, il a enregistré ce spectacle, The Dreamer. Et il raconte ce qui s'est passé ce jour-là, le stress qu'il avait. Et surtout, il a cette chose intéressante. Il dit, si demain, je vais dans un club de striptease ou quoi, et que quelqu'un me voit, je fais partie de son rêve, parce que lui, le lendemain, il va raconter, hier, j'étais au club striptease et j'ai vu Dave Chappelle.
Ouais.
Et en fait, il dit, là, tu dois avoir l'humilité d'accepter que tu es un rêveur et que tu es aussi dans le rêve des autres.
Bah oui.
Mais c'était vraiment intéressant ce point de vue, se dire, ok, j'ai accompli mes rêves, je suis devenu la grosse star que j'étais, et maintenant je dois aussi avoir une position, d'humilité, une position qui fait que je peux continuer à être dans le rêve des autres sans les décevoir presque. Moi, je vois ça.
Ouais, moi, en parlant de ça, ça me fait penser à une interview de Kad Merad qui dit, il peut aller nulle part en France, il ne peut pas faire un pas. Parce que photo, parce que machin. Et voilà, il dit, mais.
Je le croise tout le temps, je le croise tout le temps à la gare, il est jamais embêté, hein, t'inquiète pas.
Ah oui, mais quand les gens viennent ouais. Le demander pour prendre une photo, bon, ce qu'il dit, après, je sais pas si c'est vrai, qui dit bah oui qui il le fait de bon cœur quoi et que voilà les gens lui ont donné tant et que maintenant bah la moindre des choses je sais pas si c'est la dixième personne qui veut te demander une photo dans la journée bah pourquoi t'enverrais chier cette personne en particulier tu vois c'est compliqué
Ben, il faut tracer une ligne et se décider. Ceux qui sont assez clairs sur ça, moi, j'aime bien, c'est les rappeurs qui sont de ta ville, Bigflo et Oli.
Ouais.
Je les trouve qu'ils sont assez clairs sur la célébrité et dire quand on veut, si on fait profil bas et qu'on essaie d'être discret, ben, on va pas être trop dérangé, mais on a fait l'expérience d'être en terrasse et d'être à découvert. Et en fait, on est vite emmerdé. C'est-à-dire qu'au passé le truc sympa, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir nous tester, faire ci, faire ça, et c'est
Ouais.
problématique. Donc, je suis obligé à un moment de tracer une ligne, de dire, OK, c'est quoi mon attitude face à la célébrité? Et moi, pour fréquenter quelques personnes qui sont sollicitées dans ces échanges-là, la plupart du temps, 99% du temps, ça se passe trop bien, c'est cool, c'est une photo, c'est ci. Mais tiens, un petit pourcentage, 1% qui est problématique.
Ouais.
Mais comme les chiffres ne montent pas, si dans la journée, tu as 200 personnes qui t'ont abordé, tu as forcément deux personnes qui ont été très problématiques la journée et ça change ton attitude en fait. À un moment, tu te dis, bon, j'en peux plus, j'ai eu ces gens-là qui sont trop lourds, nous, ça nous arrive en comedy club. Des gens qui étaient très irrespectueux sur une comédienne que je suivais, qui étaient casse-pieds pendant son passage et tout. Et à la fin, il s'avérait que c'était des fans.
Bah oui.
Mais des fans relous qui ne savaient
Ouais.
pas exprimer leur façon de dire je suis content de te voir alors que je ne m'attendais pas à te voir dans ce comedy club.
Ouais.
Et après, ils voulaient prendre des photos et tout. Et la comédienne, elle disait, mais non, mais en fait, tu m'as gâché le show. Tu m'as empêché de travailler parce que tu étais.
Ouais.
Et c'est dur de. Est-ce qu'à un moment, tu dis, bon, je laisse tomber, tant pis, c'était qu'un show et c'est pas grave. Ou tu dis, mais non, mais je vais te faire payer le fait que tu ne sois pas quelqu'un de cool avec moi.
Oui, parce que t'es pas leur chien non plus. C'est un peu comme disait Tarantino dans une interview, un mec qui disait alors la violence dans tes films, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, dis aux gens de regarder le film et qu'ils se fassent leur propre idée. Non, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Il dit non, je suis pas ton singe, je vais pas danser pour toi parce que t'as envie que je danse. Et c'est puissant hein, de dire ça parce que ouais, des gens, ah, fais-moi une blague, par exemple, un truc quand tu dis t'es humoriste, ah, fais-moi une blague. Non, non,
Ah, c'est
voilà.
compliqué, hein. Dave Chappelle, il se fait encore plus défoncer par les critiques. Il se prend une étoile sur le Télégraphe. Il se prend vraiment. Il se fait démonter par Rolling Stone. Il est obsédé avec les trans people. Il est bon. Et surtout, il sort encore dans le truc de ah, il aurait pu faire tellement mieux. C'est Dave Chappelle. Il sera jamais le GOAT alors qu'il se positionne comme le GOAT parce qu'il est obsédé par ça. C'est plus du tout ce qu'il était avant. Et franchement, il y a un truc qui ne ment pas aussi, c'est Rotten Tomatoes.
Ouais.
Dans Rotten Tomatoes, c'est un agrégateur d'avis.
Ouais.
Alors, Ricky Gervais, il prend 60. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de reviews, mais il prend 60% des reviews professionnelles
Ouais.
et 62% sur le score du public. Donc, ce qui est assez médiocre. Hein. Et Dave Chappelle, sur les mêmes trucs, il prend 86% du public.
Ah oui.
Et il n'y a pas encore les reviews, ils n'ont pas encore assez de reviews professionnels.
Ouais. Non, après,
Tiens, ouais, je
c'est intéressant de quand on cherche. Moi, je fais ça tout le temps. Chaque fois que je vois un film français, ce qui est soi-disant une comédie, et au bout de 5 minutes, j'en peux plus, c'est insupportable, je peux plus regarder. Je vais tout de suite sur Allociné voir les critiques négatives pour voir s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Et là, je dis, ah oui, c'est trop vrai, ça, c'est trop de la merde et tout. Ah, et je suis très content. Et les trucs positifs, je les regarde juste pour m'indigner. Comment tu peux dire que c'est un film sympa, cette merde, voilà. Mais c'est assez drôle. Après, c'est...
mais là, je vais te donner une critique, le titre d'une
Non.
critique, d'accord? C'est The Dreamer est un gâchis pathétique de la part d'un homme qui n'en a plus rien à foutre. Alors, je te donne la critique.
Vas-y.
D'accord, maintenant je vais te dire d'où elle vient la critique.
Allez.
Ça vient de yannthomasmalone.com. Le sous-titre du site, c'est Comédien transgenre, film critique et animateur de podcast.
Voilà.
Elle te dit oui, d'accord, je sais, c'est quand même assez stylé.
Oui, c'est ça. On comprend ton avis.
On comprend ton avis et moi je suis content que ces mecs-là puissent exprimer leur avis, dire Dave Chappelle c'est pas cool. Et il y a un truc méta, c'est que dans Verified Stand-Up, qui est la série en deux épisodes là, de stand-up de 10 minutes qui a sorti
Ouais.
Netflix, il y a des gens qui commencent, des comédiens qui commencent à attaquer Dave Chappelle par stand-up interposé. Et à dire hey, tu es un vieux, tu comprends rien, et l'attaquer sur ce qui est. Et c'est. Il y a un côté méta chez Dave Chappelle qui est en train de se créer dans le sens où. Ah là là, vous pensiez pas que j'allais repartir sur les trans? Tada, je repars sur les trans, et parce que je m'en fous.
Oui. Mais il a toujours raison finalement, parce que plus tu mets, voilà, c'est moi j'essaie de faire la différence impossible à faire entre une vraie opinion et une envie d'exister et de surfer sur la célébrité de l'autre. Et c'est ça, un mec qui un peu comme les mecs qui faisaient avec Eminem,
C'est vrai.
qui clash Eminem, ouais, c'est de la merde, ouais, mais c'est Eminem quand même. Et voilà, c'est un peu viser là-haut, celui qui est en haut, et surfer sur ça. Et entre ça et que ce se met après, c'est difficile si tu te mets à critiquer Dave Chappelle parce que c'est un machin, machin. Et qu'est-ce que toi tu proposes à côté? Si tu fais la même forme d'art, si tu es en tant que consommateur,
Voilà,
tu consommes
ben, moi
moins.
c'est ça que je c'est le discours que j'ai avec mes camarades comédiens, c'est ils me disent c'est pas bien, c'est toujours les mêmes specials, ils sont obsédés par le truc woke, par le truc trans et tout. J'ai fait OK. Et je vais admettre que les deux specials, ce ne soient pas les meilleurs de leur auteur. Parce qu'ils ont quand même livré, à mon sens, chacun un chef-d'œuvre au moins. OK, ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils descendent. C'est-à-dire, je pense pas que leur prochain soit moins bien que celui-ci. Je suis sûr qu'ils vont arriver vraiment encore avec des bons specials. Ils en ont encore sous le coude. Et surtout, je leur dis, maintenant, on va prendre en France, en francophonie, on va au Québec, on va en Belgique, on va partout en Suisse. Trouvez-moi des spectacles qui sont 50% aussi bien que cela. 50%.
Mais
Je ne vous demande pas plus. 50%, me trouvez un spectacle qui me procurera 50% de ces émotions-là, qu'il ait été capté ou que j'aille le voir en live, j'irai le voir. Et elles me disent, ouais, c'est parce que nous, on n'est pas beau qu'il faut. Et non, mais non, mais non, mais non. Je ne te parle pas de ça. Moi, je pense qu'il y a des gens en France, il y a des bêtes de spectacles en francophonie. Il y a vraiment des super comédiens. Il y a des bons spectacles de stand-up. Il y a du super one-man show. Il y a des nanas qui font des spectacles incroyables, des gens avec du fond. Il n'y a pas de problème. On a des bons comédiens en France. Mais là, on est face à des très, très, très grands comédiens. Les deux, ce sont des. Ils font forcément partie du top 10 mondial.
Mais
Qu'on le veuille ou non, ils font partie. Je ne dis pas top 5 pour vexer personne, mais ils font forcément partie du top 5 en vrai, les deux. Et on peut discuter des autres, de la présence des autres. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'on puisse vraiment discuter des autres. Mais ils font partie du top 5. Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants et ils sont réguliers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. C'est pas une œuvre. C'est 10 œuvres, chacun a livré 10 specials, chacun a eu 10 fois l'occasion de se dire ils sont très 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 forts. 10 fois on a eu l'occasion de parler de leur spectacle, se dire moi mais qu'est-ce qu'il a apporté encore à chaque fois ils apportent quelque chose. Donc c'est pas leur meilleur, mais il faut se réjouir, se dire que les meilleurs stand-uppers à l'heure actuelle sortent des specials sur Netflix.
Ben
Et
oui,
moi
bah
j'ai
ben oui, parce que tu vas, il y aura un moment, c'est ça qui est drôle, il y aura un moment comme Billy Connolly, voilà. Un de mes regrets dans la vie, c'est que je ne verrai plus un nouveau spectacle de Billy Connolly, parce qu'il a 80 ans passés, il a Parkinson, il fera plus de
Il est
stand-up.
abîmé, lui. Hein.
Pardon?
Il est abîmé, hein. Billy Connolly, je l'ai vu la
Ben
dernière
oui,
fois.
il a
Regarde, il
été.
est fatigué. Hein.
Il a 80 ans passés. Et voilà, il ne fera plus comme il y a plein, comme quand tu regardais The Office et quand il y avait des nouveaux épisodes qui sortaient, ou Dexter, ou des séries qui t'ont marqué, et qu'un jour c'est la fin, et tu sais que, ah, il y a comme un petit vide. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu comme regarder Messi ou Cristiano jouer
Ils
au
vont
foot.
s'arrêter. Ils
Ils
vont
vont s'arrêter.
s'arrêter.
Donc,
Et
quand.
Chappelle s'est déjà arrêté.
Eh
C'est-à-dire,
oui.
Chappelle, il a 50 piges. Il est quand même en forme. Chappelle peut s'arrêter demain et ne plus revenir. Pourquoi? Il l'a déjà fait. Il a assez d'argent pour le faire et c'est son caractère d'arrêter.
Mais oui, mais oui. Alors que George Carlin, par exemple, c'est jusqu'à la tombe. George Carlin, tu regardes son dernier spectacle, le mec, on dirait qu'il sort de l'EHPAD pour faire son spectacle, il rentre à l'EHPAD juste après.
Et
Et
Norm
c'est
Macdonald.
triste.
Non, Macdonald,
Ouais.
il a enregistré son
Et
spectacle
mourant.
mourant. Il est mourant, il savait qu'il allait mourir. Il a enregistré son spectacle face cam devant son Mac.
Oui, c'est ça.
Mais là, on est dans deux cas, Ricky Gervais et Dave Chappelle. Peut-être c'est les derniers chacun qui le livre. Ben moi, je dis on devrait se réjouir parce que une fois qu'on les aura enlevés, une fois qu'on aura enlevé Louis C.K., Bill Burr, j'ai pas vu la relève. Hein. J'ai pas vu la relève. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un point commun. Ils ont plus de 50 piges. Et ils ont tous taffé pendant 30 ans, 30 ans leur art, 30 ans, 40 ans leur art. On a des comédiens matures qui s'expriment devant le bon public à la bonne époque. Et
Ouais.
donc, vraiment, je vous recommande de voir les deux specials, que vous adhériez aux propos ou pas. Sachez déjà que
Techniquement, il y a plein de choses à voir hein,
plein de choses à voir
sur la
techniquement.
technique. Et là, il y a comme une métaphore qui m'est venue tout à l'heure aux toilettes. C'est que ces deux spectacles, c'est comme tu fais un trajet Paris-Marseille en voiture sur l'autoroute.
Ouais.
Là, il y a des virages, il y a des trucs. Tu fais des petites aires de repos, tu sors un petit peu, tata, tu fais des blagues, mais on dirait pas, on voit pas le temps passer, on voit pas, ah, ça c'est le
Exactement.
beat sur ça, ça c'est le machin sur ça, ça tata tata, ta. Alors que des spectacles, certains, des gens en France, tu vois que, ah, ça c'est le 10 minutes de, je sais pas, 2020, le 10 minutes de 2021, le 2 minutes d'un,
Ouais.
et comme ça, rafistoler ensemble. Là, c'est vraiment, c'est fluide, quoi. Tu vois pas passer les transitions. Ils disent pas, ah, vous cherchez pas de transition dans mes sketchs, il y en a pas. Ou, tu vois, ce genre de
Vous
truc.
n'avez pas payé, pas de transition, vous n'avez pas payé.
Oui, voilà.
Ouais.
Il y a pas ça.
Non,
C'est
mais vraiment,
du
moi,
pur.
je le dis honnêtement, quand j'ai vu Chappelle, ça m'a juste donné envie d'être un meilleur stand-upper.
Ouais.
Et ce qui est drôle, c'est que Chappelle, enfin, j'ai un stand-up qui n'a aucun rapport avec Chappelle, dans le sens où je fais pas du tout storytelling, mes blagues sont assez courtes, assez absurdes.
Ouais.
Et donc, je ne peux pas atteindre. Je vois qu'il y a certains points que je ne peux pas atteindre parce que je pratique un art qui est parallèle à lui. Et c'était drôle de me dire, ah mince, si à un moment je veux marquer les gens, être aussi puissant, je vais être obligé de passer par du storytelling parce qu'il n'y a que ça qui peut être aussi impactant dans mon style. Moi, j'ai la chance d'avoir des retours immédiats du public et surtout avec les réseaux, tu vois, t'as des gens qui vont commenter tes spectacles, qui vont commenter tous tes actes. Et
Ouais.
il y en a qui vont dire c'est nul, il y en a qui vont dire tiens, c'est du génie, ils comprennent vraiment ce que tu veux faire.
Ouais.
Mais malgré ce, je vois qu'une histoire de 15 minutes comme fait Chappelle, ça peut marquer l'histoire en fait.
Et oui, et là, et en plus, au début du special, là, quand il fait la blague sur les trans, mais tout le storytelling qui n'est pas drôle est ultra puissant aussi.
Trop
Et
fort,
tu te dis,
c'est.
là, cette chute-là, c'est la seule chose qui était drôle. C'était que c'était reconnaissant, reconnaissable et surprenant. C'est voilà, et la vraie truc quand tu as quelqu'un de trans dans ta vie, que tu vois malgré toi ce que la personne était avant. Voilà, c'est un truc et que tu souvent bon jusqu'à ce que tu aies tellement de contact avec cette personne que tu vois plus rien, c'est juste la personne. Mais voilà, et donc tu peux reconnaître cette difficulté. Mais c'est juste surprenant. Parce qu'il a fait le tour du quartier avec la blague. Mais le truc
Et ça,
avant.
c'est drôle, là, cette capacité à faire le tour du quartier.
Ah
Et
oui, c'est ça.
le chemin est agréable.
Ah
Moi, je
oui.
trouve que le chemin avec lui, il rend le chemin trop agréable.
C'est
Et
ça.
après, il y a un relief, il y a une récompense, il y a quelque chose de. Pouf, il y a une blague franche à la fin, mais elle n'est même pas indispensable dans le sens où, ouais, je prends du plaisir sur le chemin avec lui. Et cette capacité à faire des bons storytelling. Bon, en France, je n'en connais pas beaucoup. Honnêtement, alors, je ne suis pas cultivé incroyablement en scène française. Alexis Roussillon a cette capacité, c'est-à-dire qu'elle te raconte une histoire. L'histoire est passionnante, l'histoire est drôle. Et c'est pas un mec qui vient prémisse en punchline, c'est un gars, il s'en fout de ça. Il a juste une histoire mortelle à te raconter. Et les détails de son histoire mortelle, tu te dis, mais pourquoi il me dit ça? Et en fait, ça contribue tellement à son histoire qu'il a son style à lui. Et c'est pour ça que c'est un mec qui est dur à appréhender en tant qu'auteur ou quoi. C'est qu'il a un style tellement spécifique que quand tu interviens, tu dénatures presque son style.
Ouais, oui.
Et Dave Chappelle. Je sais pas, c'est même plus. Moi, je vous recommande d'essayer de faire l'expérience et des fois de fermer les yeux quand il parle. Et c'est plus du stand-up, c'est un prêche. Il y a un côté prédicateur, on le sait qu'il a ça chez lui, on sait que ça vient de sa famille. Mais c'est un prédicateur, il a une forme de stand-up qui est totalement aboutie. Et voilà, moi, je me réjouis d'avoir ce mec au sommet de son art qui me livre un special. Je suis content que Ricky Gervais ait fourni un special. C'est trop drôle qu'il les sorte à une semaine d'intervalle et qu'on puisse les comparer. Mais la seule chose à faire chez vous, c'est faites-vous une idée, regardez-les.
Ouais.
Et si vous prenez ne serait-ce que une ou deux techniques, un ou deux élans, une ou deux façons, une ou deux inspirations, ça sera déjà énorme. Et dites-vous que c'est tellement rare, à mon sens, qu'un special fasse réagir. Et que là, on a des coups sur coups, deux specials qui fassent vraiment réagir. C'est pas un hasard.
Ouais, et si vous avez un peu de temps, regardez aussi Sarah Silverman, Speck of Dust. Et là, il y a un exemple.
Pourquoi tu élargis? Pourquoi d'un coup tu élargis en fait
J'élargis parce que y a un
les gens
exemple,
avaient trop leur nom.
il
Non!
y a un exemple, regardez, je vais te l'envoyer. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, un exemple de storytelling.
On l'a vu, mais on peut y
Voilà.
consacrer un épisode spécial. C'est spécial si tu veux de
Voilà,
ça.
regardez-les. Voilà,
Parce
regardez-les.
que là, depuis que tu es là, on fait des épisodes trop longs, Scott. Hein.
Ah oui, parce que je ferme pas ma gueule. Allez, c'est fini.
Allez, tout ça pour dire, c'est début d'année. Netflix, alors qu'on était un peu désespérés, ils livraient plus de. Ils nous livraient plus de specials de qualité. Là, ils ont livré deux specials de qualité avec deux superstars. Cette année, je ne sais pas ce qui est prévu, si on attend encore des choses sur Netflix. J'espère qu'ils vont nous livrer encore des choses, mais le fait qu'on ait déjà passé les plus gros, c'est. Peut-être qu'on va être sur du maigre par la suite, quoi.
Ouais. Ou peut-être qu'il y a de nouveaux talents. Vous spécial à vous. Et vous êtes où? C'est ça.
Attends, je regarde juste parce que d'habitude, j'ai toujours cette liste sous les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour finir cet épisode? Qu'est-ce qu'on attend concrètement dans cette nouvelle année? On attend Pete Davidson. Alors, tout le monde n'attend pas Pete Davidson.
Gros?
Non, Pete Davidson, tu vois pas qui c'est?
Non, je vais chercher.
C'est l'ex de Kim Kardashian, l'ex de. C'est un mec qui est connu pour être. Qui sort avec que des grosses stars. C'est un ancien du Saturday Night Live.
Ah oui.
Je le trouve très très drôle. Hein. Je trouve drôle le
Non.
special. Je le trouve drôle en tant que Pete Davidson.
Ouais.
On attend. Il y a Dusty Slay. Dusty Slay, c'est un gars que. Alors moi, j'aime beaucoup Dusty Slay. Et donc je l'attends. On l'avait vu sur des formats plus courts.
Ben oui.
Et on le voit beaucoup avec. Il est co-animateur du podcast de Nate Bargatze. Donc moi, c'est un gars que j'attendais son special. Et après, il y a l'anglais Jack Whitehall, où je suis vraiment moins enthousiaste, qui sortira un truc fin janvier. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est pour le mois de janvier. Donc Netflix continue d'avoir une politique de sortie spectacle assez cool. Ils vont enregistrer aussi au printemps, ils font. Leur festival à Los Angeles, Netflix is a joke.
Bien.
Donc pareil, on va avoir toute une série de captations à Netflix is a joke et surtout des formats spéciaux, des hommages, des roasts, des Hall of Fame, des choses comme ça. Ça va être sympa, je suis juste encore assez dubitatif sur le fait qu'on ait un special sur deux qui n'arrive plus en France, qui ne soit pas traduit.
Ouais.
Il y a quelque chose qui se passe que je. Un jour, on aura la réponse de pourquoi il nous arrive pas, pourquoi on n'a pas eu Pete Holmes, pourquoi on a des choses comme ça qui nous échappent. C'est.
Tout le monde partage son abonnement. Ça va être pour ça. Parce que ça coûte de l'argent. Après, c'est un calcul de
Mais pourquoi on l'aurait
financier,
pas
je
en prendre? Non, mais
pense.
c'est sorti aux États-Unis. C'est sorti aux États-Unis. Ils ont qu'à le traduire.
Là, il y a des trucs de droit aussi. Il y a des trucs particuliers.
J'aimerais avoir le fameux d'histoire. Un jour, on saura, mais pourquoi d'un coup ils nous privent d'une partie du catalogue spécial alors qu'on peut partir au principe que dès le moment où tu regardes des spéciaux Netflix, tu es initié presque. Sorti des deux, trois grands noms, Gervais Chappelle, le reste, c'est pour les initiés. Donc, soit ils nous font plaisir, soit ils ne nous font pas plaisir. Mais qu'ils ne nous fassent pas plaisir à moitié.
Oui, c'est sûr. C'est ce qu'elle a dit. Pardon. Ça, c'est le moment.
Je vois très bien la blague.
Voilà, c'est bien.
Scott, passe un bon début d'année. On se
Toi
retrouve la semaine
aussi.
prochaine.
Bisous tout le monde. Ciao, ciao.
Salut.